Bonjour à tous, c'est la première émission d'une émission qui s'intitule « La coiffeuse aux accents ». La coiffeuse aux accents de non-sens, de l'innocence. Posez vos affaires, détendez-vous et surtout, mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de non-sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Il est là pour vous guider dans votre vie. Si vous le souhaitez bien, et si vous souhaitez nous suivre, ce nom de l'émission troublant et bizarre, La coiffeuse aux accents, que nous avons choisi, a pour but réveiller vos sens, vos esprits, et vous amener vers d'autres plateaux de votre conscience. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Alors, je vous invite tous à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens. Olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile, et celui sixième, si recherché et espéré. De la coiffeuse, il n'en reste que des accents de son contenu et du parfum. Le parfum inoubliable émanant de la coiffeuse qui appartenait à ma mère, avec le contenu aux accents de sens divers qui guidaient sa vie et son quotidien. Je la connaissais peu, mais je maîtrisais parfaitement ses contenus de chaque tiroir de cette coiffeuse magique. C'est donc à ma mère, la dingue des années folles, que je souhaite rendre hommage en créant cette émission. Où chaque tiroir parle et explique la magie de notre vie à travers chaque tiroir, son contenu et le miroir invisible ou visible de notre studio. La magie olfactive de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième. Le chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la devanture d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquilles nous ramène à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël, si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brins de sapin dans les jonquilles. Enfin, une gousse de vanille et on se souvient du baiser maternel. Tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos arrière-grands-parents s'en souviennent. Et quelle était leur vie ? Alors, j'ouvre le tiroir du bas. Qu'est-ce que je vois ? Alors, cahier des trucs à faire. Novembre 1929. Avec une écriture hâtive, c'est écrit 8 juin 1930, l'anniversaire d'Edith, a acheté une coiffeuse à ma fille. Notre invité surprise, c'est Fabrice Ullery, le pianiste de la renommée internationale, le fondateur du festival Blues en Aveyron, va nous livrer la magie de cette époque et nous parlera de la crise boursière du 1929 qu'on connaît comme crash, qui se déroula à la bourse de New York, entre le jeudi 24 et le mardi 29 octobre. Merci Fabrice. Alors, crack 1929.
Dans l'histoire de la finance et dans l'histoire tout court, c'est le crash de référence, puisque c'est le premier gros crash et celui qui a fait perdre l'illusion dans la toute-puissance du capitalisme. Donc il y a déjà très longtemps, il y a presque un siècle. Il a servi aussi de référence mythologique. Il y avait comme un certain romantisme ou une manière, disons, de romancer l'histoire, puisqu'on a parlé de milliers de suicides avec des gens qui se défenestraient, qu'on les voyait à Manhattan, autour de Wall Street, on voyait sans arrêt des gens tomber des immeubles. En fait, c'est une légende. Il y a eu très peu de suicides. Il y en a eu, mais il y en a eu très peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu surtout un choc émotionnel, parce qu'on est passé d'une période d'euphorie, les années 20, qui ressemblent un petit peu aux années 60, parce que ce sont des ou aux années 50, parce que ce sont des périodes d'après-guerre, de reconstruction, avec une joie de vivre que j'essayais de traduire là un petit peu par le Charleston. C'est un morceau qui s'appelle Charleston, d'ailleurs, qui a été composé par un harlémite, un pianiste de Harlem, qui s'appelle James B. Johnson et qui était un des maîtres du piano stride. Le piano stride qui consiste à avoir une main gauche très mobile qui fait une basse, un accord, ce que je faisais là. Rien qu'avec une main. Et puis la main droite joue des phrases par-dessus cet accompagnement. Et donc ce piano harlémite, ce piano de Harlem qui enchantait, traduit bien cette période de fête et d'euphorie des années 20 avec le Charleston comme danse et puis le cinéma muet et tout le burlesque, toute cette gaieté qui a été rompue en quelques semaines, en quelques jours et en quelques semaines en fait à la fin des années 20 et qui a été suivie par une dépression dont on n'a plus idée aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait des centaines de milliers, voire des millions de 78 tours qui se vendait en 1928, et puis en 1930, on est passé à quelques dizaines de milliers. C'est-à-dire que les gens n'avaient même plus d'argent pour s'acheter de quoi se distraire, et puis beaucoup n'avaient même plus d'argent pour manger. Bon, on voit tous ces films et ces photos de gens qui faisaient la queue à la soupe populaire et qui avaient du travail dans quelques mois auparavant. Donc il y a eu des millions de chômeurs, et puis cette crise, parce que les économies étaient déjà interpénétrées, c'est propagé aux pays européens, aux autres pays industrialisés. La France a été d'ailleurs assez épargnée. On a été seulement atteint en 1931 par la crise de 1929. On a mis un an et demi à être touché parce que on était resté après la guerre de 14 un pays très traditionnel dans ses, disons, dans ses structures professionnelles. On avait encore beaucoup d'agriculture. On est encore une puissance agricole. On avait encore beaucoup de gens qui étaient dans la ruralité. Voilà, donc ça nous a permis de ne pas être touchés en premier lieu comme l'Allemagne ou comme le Royaume-Uni. Mais donc c'est une période de désillusion et aujourd'hui on a tendance à l'oublier parce qu'il y a aussi l'optimisme du peuple américain qui a permis de rebondir très très vite. Même si les gens étaient très pauvres au début des années 30, on peut dire qu'il y a un optimisme, une espèce de méthode couée à l'américaine qui était assez inconcevable chez nous, qui les a fait remonter très vite, au moins moralement, parce qu'il faudra attendre tout de même les années 50 déjà pour avoir le même niveau d'indice boursier. Et puis, c'est surtout l'économie de guerre qui va faire redémarrer les États-Unis à la fin des années 30, puis ce qu'on a appelé le nouveau pacte, le New Deal, puisque le président qui était en fonction en 1929, qui s'appelait Hoover, était complètement dépassé, et que son successeur, Roosevelt, en revanche, a proposé quelque chose qui a plu au peuple américain, puisqu'il a été réélu, il a été élu 4 fois. Il n'a pas achevé son 4e mandat, puisque la maladie en a voulu autrement. Il est mort en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a fait qu'un an à son mandat. Mais il a tout de même été élu 4 fois.
Mais vous venez de dire quelque chose d'assez essentiel qui se rejoigne avec la philosophie de notre émission. C'est que c'est l'optimisme américain qui a permis de rebondir. Et donc, et c'est exactement ce qu'on propose à notre auditoire, c'est restons optimistes. Je ne veux pas poser la question, est-ce qu'on pourrait comparer cette situation à la situation d'aujourd'hui ? Parce que chaque époque a ses complications, à ces particularités-là.
Il y a des similarités parce que à l'époque, on pouvait parler aussi du monde d'avant et du monde d'après. J'ai entendu cette expression-là dans les mois derniers. Et à l'époque, on avait vraiment l'impression de changer de monde. On se disait, ce sera plus jamais comme avant, etc.
Bah, donc, il y avait des alarmistes. C'est la caractéristique de toutes les époques.
De toutes les crises, en tout cas, violentes, comme celle-là, qui arrivent du jour au lendemain. Voilà, bon, on était déjà en crise, mais il y a eu, disons, une crise violente, visible, qui s'est dégagée cette année en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'est une similarité avec 1929.
Vous le dites bien, mais petit à petit, vous nous amenez à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est Jean-Marc Lacombe qui va justement porter le témoignage de cette époque qui devient plutôt numérique. Parce que si je me permettais de parler des cahiers des trucs à faire, des agendas, les carnets de notes d'autrefois, aujourd'hui, ils sont presque dans sa totalité numérisés et informatisés. Jean-Marc Lacombe, qui est le cofondateur du Sismic, c'est une association des entrepreneurs passionnés engagés pour le numérique, vous le direz beaucoup mieux que moi, nous livre la nécessité du numérique, son évolution, son impact sur l'homme et la question globale, est-ce que l'informatique va remplacer l'homme ? Merci d'être venu dans tous les cas.
Merci Milana. Bonjour Milana.
Et bonjour.
Bravo d'avoir eu le courage d'ouvrir ce tiroir dans cette coiffeuse, le tiroir du numérique, parce qu'il est particulier quand même ce tiroir. Tout d'abord, sa première caractéristique, c'est qu'il a une façade comme ça, mais quand on l'ouvre, il y a une profondeur infinie et il y a une volumétrie infinie. Et tous les jours, il y a de nouveaux objets. Et tous les jours, il y a de nouvelles choses immatérielles qui émanent du numérique. À tel point que cela fait beaucoup peur, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont des fantasmes aussi au travers du numérique de façon négative ou de façon positive dans les deux cas. Le premier fantasme, c'est le fait que la machine numérique pourrait remplacer l'homme et elle pourrait être supérieure à l'homme. Alors ça fait longtemps que l'homme a créé des choses qui sont supérieures, qui lui permettent de donner une apparence de supériorité. Mais c'est toujours c'est un outil, c'est toujours pour sa propre utilisation et c'est toujours pour se faciliter la vie. Ben, le numérique, c'en est un. C'est-à-dire que on peut fantasmer sur des robots humanoïdes qui pourraient être à la fois très dangereux ou être à la fois très inoffensif et très assistant, ben oui, c'est une réalité, ça existe. Mais c'est toujours programmé par l'homme. Par contre, je vais essayer rapidement de vous décrire tous les bienfaits du numérique et tous les travers, toutes les choses beaucoup plus obscures que le numérique peut amener. Le numérique, il impacte pratiquement tous les secteurs d'activité.
C'est-à-dire, alors, on parle même parfois que l'agriculture aujourd'hui n'échappe pas au numérique.
Non seulement elle n'échappe pas, mais elle est une des premières consommatrices du numérique.
Ce qui peut paraître très étonnant.
Bien sûr, la plus ancienne, je dirais, le plus ancienne chose que l'agriculteur utilise, c'est la météo. Et la météo, ben, c'est un des premiers vecteur qui a utilisé l'intelligence artificielle et qui a utilisé ce qu'on appelle les objets connectés. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde, ce doit être très certainement ce qui emploie le plus d'objets connectés. Il y en a des milliards dans le monde. C'est ce qui va permettre d'analyser tous les comportements d'hygrométrie, de température, de vent dans le monde entier et d'en faire de la prédiction. Grâce à des statistiques, grâce d'ailleurs à des découvertes d'un Aveyronnais qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Émile Borel, qui était de Sainte-Afrique et qui a fait beaucoup de découvertes sur les probabilités. Ben voilà, la prédiction, on le fait avec des probabilités. J'ai telle chance d'obtenir tel résultat compte tenu de tout un tas d'informations que je vais aller puiser dans des données. Alors c'est quoi le numérique ? C'est ce qu'on appelle des big data, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de données Et puis, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un bien
grand mot. On en parle beaucoup.
On en parle beaucoup. C'est un bien grand mot, un peu pompeux. Ce sont des algorithmes qui vont pouvoir se rectifier, c'est-à-dire faire de l'apprentissage au fur et à mesure qu'ils vont analyser des choses. Et plus on va lui donner à manger des informations, et plus il va être précis et il va pouvoir faire cette fameuse prédiction. Après, effectivement, ça a été construit par l'homme, donc ça restera dans les limites de l'homme, il ne faut pas croire. Après,
donc l'homme pourra toujours maîtriser tout de même
bien
cette
sûr,
situation.
Bien sûr, de toute façon, il suffit de débrancher pour ne plus maîtriser.
Mais il faut aussi avoir le courage de débrancher, parce que
oui,
ce n'est pas le cas de tout le monde.
Oui, mais ça peut être utilisé...
La problématique des addictions.
Bien sûr, et ça peut être utilisé pour des bonnes choses et ça peut être utilisé pour des mauvaises choses. Mais toutes les inventions ont été comme ça. Je vais vous citer de très bonnes choses. Le numérique, les technologies numériques sont utilisées principalement pour la santé. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de faire de l'imagerie numérique pour reprendre tout le morphing d'une bouche, toute la topographie, j'allais dire, d'une bouche. Avant, c'était compliqué, il fallait faire des radios. Les radios, c'était du 2D, on essayait de les déployer et il fallait vraiment être un expert pour aller détecter et comprendre la masse osseuse. Et on ne pouvait voir que la masse osseuse. L'imagerie numérique, c'est tout simplement un petit appareil, une sorte de petit appareil photographique qui va venir scanner l'intérieur de la bouche, qui va prendre des millions de points de la bouche. Et le gros avantage, c'est-à-dire qu'il va prendre aussi l'épaisseur de la chair. Donc, pour refaire une dent, il va tenir compte de la gencive, chose qu'une radio ne savait pas faire. Il va faire mieux que ça, c'est qu'il va aussi prendre la couleur des dents, la couleur de la gencive, etc. Et il va pouvoir faire une interprétation et faire une proposition au dentiste sur le remplacement de telle ou telle dent. Il va, bien sûr, permettre de voir beaucoup plus de choses que par le passé. Voilà un exemple d'utilisation du numérique pour une avancée, l'avancée et pour le bien de l'humanité. Bien sûr, les plus grandes avancées où on a utilisé le numérique, c'est malheureusement l'armée. L'intelligence artificielle, elle est née au départ pour le guidage des missiles. Les premiers algorithmes, c'était uniquement pour guider des missiles dans l'espace.
Si on prend à peu près à quelle époque ?
Ça, c'était dans les années 60.
D'accord.
Fin des années 50, début des années 60. Et il y a eu comme ça plein d'inventions qui aujourd'hui sont dans notre domaine. Par exemple, la voiture autonome. Ben, la voiture autonome, c'est l'armée qui a inventé cette technologie. C'était pour envoyer des blindés dans le désert sans qu'il y ait d'hommes au volant, pour amener des ravitaillements à des troupes, sans qu'il y ait d'hommes au volant, parce qu'effectivement, si le blindé il saute sur une mine, c'est pas grave, s'il y a un humain à l'intérieur, c'est grave. Ben, on a mis des capteurs dans tous les sens, on a mis des capteurs à infrarouge, on a mis... Et aujourd'hui, effectivement, la plupart des camions qui vont circuler dans le désert pour aller dans les ravitaillements, il n'y a pas d'hommes dedans. Et il est capable de voir des choses que l'homme ne verrait pas. Pourquoi ? Parce que grâce à l'infrarouge et bien d'autres technologies, il arrive à percevoir à des kilomètres un homme qui se déplace, une arme, etc. etc. Donc ça, c'est le côté un peu obscur, un peu sombre, parce qu'on peut l'utiliser aussi pour effectivement tuer l'homme. Mais ça a permis de créer aussi des composants pour les voitures autonomes. Et aujourd'hui, effectivement, on sait fabriquer des voitures qui se déplacent sans qu'on ait besoin de tenir le volant. Et bien sûr, la première appréhension, c'est de dire oh « oui, mais il va y avoir beaucoup d'accidents ». Ce n'est pas vrai. Les statistiques, là, démontrent qu'il y aura à peu près 10 fois moins de tués sur la route lorsqu'il n'y aura que des voitures autonomes.
On peut le considérer aussi comme une solution à certaines,
bien sûr,
à certaines problématiques. Et donc, bien cette sûr, fameuse association des entrepreneurs passionnés et engagés pour le numérique.
Alors, cette association s'appelle Sismic et c'est une association qui rassemble à la fois les entreprises qui développent des logiciels, les entreprises qui travaillent sur les technologies du numérique, mais également des gens qui utilisent le numérique, des entrepreneurs qui utilisent le numérique pour leur développement et qui utilisent aussi le numérique pour leur gestion, pour plein de choses. Effectivement, nous sommes une cinquantaine de responsables d'entreprises de toute taille.
Est-ce que c'est essentiellement des entreprises aveyronnaises ou...
Oui, il y a quelques entreprises tarnaises, quelques entreprises lotoises, mais ce sont essentiellement des entreprises d'un territoire rural. Parce qu'en fait, on fédère autour des valeurs du numérique pour nous aider dans nos territoires ruraux. Et d'ailleurs, il se passe une chose assez, là aussi, une crise nous a amené à une chose assez particulière. Nous, depuis longtemps, nous débattions sur les tiers-lieux et sur le fait que dans nos territoires ruraux, ce qui serait intéressant, c'est de développer des salles de visioconférence où les gens pourraient venir travailler et les gens pourraient échanger avec les métropoles. Ben, c'est venu malheureusement par le Covid et aujourd'hui tout le monde est confiné et utilise le numérique. Et d'ailleurs, là où c'est assez dramatique, c'est lorsqu'il n'y a pas de très haut débit et que les gens ne peuvent pas suivre de cours, ne peuvent pas échanger et partager et faire du télétravail. Voilà. Donc oui, ça fait longtemps que nous essayons de développer le télétravail bien avant que le Covid arrive.
Et je sais aussi que ça vous arrive aussi de se réunir et de finir en musique, de faire des différents événements avec des belles initiatives d'échange. Dernièrement, il était question de lancer un petit projet au sein de Musée Soulages qui ne s'est pas fait malheureusement.
Mais qui se fera.
Mais qui se fera certainement. Donc c'était une très belle initiative qui est en quelque sorte... est transposé aujourd'hui dans notre studio, notre mini-concert grâce à Fabrice Ullery ici présent. La philosophie de la coiffeuse aux accents, c'est pas de politique, plutôt la poésie, la bonne littérature et la bonne musique. Alors un petit morceau pour finir cette première émission en beauté de votre répertoire Fabrice, si vous le voulez bien. Merci Fabrice. Fabrice Ullery a sorti plus de 30 disques et 4 DVD que vous pouvez commander sur son site www.fabriceullery-6laboutique.com et dépêchez-vous, ce serait un très beau cadeau de Noël. C'était la première édition de La Coiffeuse aux accents. Merci pour votre écoute. Merci d'être là, Fabrice. Merci d'être là, Jean-Marc.
Merci, Milana.
Merci, David, à la technique. Je vous dis à très bientôt. Et j'ai hâte de vous retrouver de nouveau devant ce miroir magique et de mes tiroirs de mon émission.